Et maintenant, nous allons venir au message et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 22. Romains chapitre 15, à partir du verset 22. Et voici la parole de Dieu. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, afin que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Et c'est la parole de Dieu. En arrivant à la fin de ce chapitre 15, nous bouclons la boucle dans cette lettre aux Romains. Au chapitre 1, Paul avait commencé sa lettre en disant à ses chrétiens à Rome qu'il avait souvent voulu leur rendre visite. On lit au chapitre 1, versets 9 et 10, Paul écrit ceci: Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Il voulait le faire et il le précise, car je désire vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et dans sa salutation, au début de cette lettre, toujours au chapitre 1, au verset 7, Paul leur a souhaité la paix de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, à la fin du chapitre 15, il arrive à la fin du contenu de sa lettre, et il leur souhaite non pas seulement qu'ils connaissent la paix, mais qu'ils connaissent le Dieu qui est paix et qui donne la paix. Il le dit au verset 33, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Et toute cette section forme un genre de serre-livre avec l'introduction de la lettre. On a le contenu de la lettre qui est serré entre l'introduction au chapitre 1 et cette conclusion que nous avons ici à la fin du chapitre 15. Paul avait voulu aller à Rome pour prêcher l'évangile et il dit qu'il en a souvent été empêché. Maintenant, il leur dit qu'il va venir à Rome après en avoir été empêché. Et son désir d'aller à Rome va s'accomplir. Il écrit au verset 22 que ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, pardon, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir. Et le premier point, donc, dans ce message, c'est que Paul veut aller à Rome. Il y a quelque temps, dans notre étude de cette lettre, on a un peu triché. On a fait ce que nos instituteurs nous interdisaient de faire. On a regardé à la fin du livre pour voir la réponse du mystère de Romains. La réponse au mystère de Romains, c'est que Paul ne voulait pas aller à Rome pour rester à Rome. Paul voulait aller à Rome pour ensuite aller ailleurs. Je ne sais pas si vous avez fait une liste de lieux, d'endroits que vous aimeriez visiter avant de mourir, mais Paul a prévu d'aller à trois endroits avant de mourir, et il les mentionne tous dans les versets, dans ces versets. Paul va aller à Rome pour voir ses croyants, après avoir été empêché pendant tout ce temps, versets 22-23. Il veut surtout aller en Espagne, verset 24. Mais avant cela, il va aller à Jérusalem, verset 25. Alors regardons sur la carte, c'est l'avantage de la technique. Il est important de réaliser que Paul écrit sa lettre depuis Corinthe, qui est au centre de la carte, que Jérusalem est dans une direction, à l'est, à droite de la carte, que Rome et l'Espagne sont à l'ouest, dans l'autre direction. Mais on ne va pas en Espagne en passant à Jérusalem, à moins d'avoir un de ces billets bon marché qui pourrait vous faire voler de Corinthe à Jérusalem, puis de Jérusalem à Corinthe, et enfin de Corinthe à Rome. Première chose d'inhabituel, première chose qui devrait nous frapper comme étant quelque chose de mystérieux, comme étant d'intrigant, c'est que pourquoi Paul, qui veut aller à Rome en vue d'aller en Espagne, pourquoi Paul va dans la direction opposée pour se rendre à Jérusalem? Comment se fait-il si l'Esprit de Dieu a convaincu Paul que l'Espagne était sa prochaine destination pour annoncer l'Évangile? Comment se fait-il que Paul se prépare à aller, selon la volonté de Dieu, dans la direction opposée à Jérusalem? Pendant que vous réfléchissez à cela, regardons d'abord pourquoi Paul veut aller à Rome. Paul nous dit au verset 23 qu'il est maintenant libre de le faire, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées. Et Paul a expliqué au verset 22 pourquoi il ne pouvait pas venir auparavant. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Dans les versets précédents, Paul a souligné que Dieu l'avait appelé à annoncer l'Évangile dans un certain nombre d'endroits où l'Évangile n'avait jamais été prêché, et d'établir des églises. Nous lisons au verset 19, la fin du verset 19 et verset 20. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Il semble que c'était la conviction de Paul qu'en tant qu'apôtre envoyé pour annoncer l'Évangile là où personne d'autre ne l'avait fait, la clé de son ministère était d'aller dans les grandes villes, les grandes agglomérations, là où il y avait du peuple, pour établir des églises qui, à leur tour, allaient établir d'autres églises dans les régions autour. Maintenant, quand il écrit cette lettre aux Romains, il a ce sentiment profond que tout ce que Dieu l'a appelé à faire dans cette région, allant de Jérusalem jusqu'en Illyrie, tout que son ministère dans cet endroit a été accompli. Il n'y a plus rien qui me retienne dans ces contrées. Et Paul a ce profond désir d'aller voir Rome pour faire l'expérience de rencontrer tous ces chrétiens qui sont à Rome, qu'il connaît de nom et qu'il cite au chapitre suivant, chapitre 16. Paul a été appelé à prêcher l'évangile aux païens, l'évangile aux non-juifs, et il tient à visiter Rome. Il veut voir comment la seigneurie de Jésus-Christ a commencé à renverser le règne de César, comment la seigneurie de Jésus-Christ est comme cette pierre qui roule de la colline, que nous le voyons en Daniel, qui prend de la vitesse pour finalement remplir toute la terre. Mais quand on... C'est une anticipation sur ce qu'on va voir au chapitre 16, mais on a une leçon. On ne peut pas connaître autant de noms de chrétiens que Paul cite au chapitre 16 si on ne prie pas pour eux. C'est une indication que dans la liste de prières de Paul, il y avait ces chrétiens à Rome, au centre de l'Empire romain, pour lesquels Paul priait, avec lesquels Paul avait correspondu, parce qu'il voulait voir la seigneurie de Jésus-Christ établie à Rome. Mais Paul ne va pas rester à Rome. Paul veut simplement apprécier, profiter de son passage à Rome. Il veut savourer le sentiment que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'accomplir sa prophétie, que l'Évangile irait du centre de la terre jusqu'aux extrémités de la terre, du centre de l'Empire jusqu'aux extrémités de l'Empire, et que Christ serait avec son peuple jusqu'à la fin des jours. Voilà la merveilleuse vision de l'apôtre Paul. Et maintenant, Paul est prêt à quitter ce champ missionnaire pour lequel il a tellement donné pour aller dans des territoires vierges, l'Espagne, pour annoncer l'Évangile. Et il se sent libre de le faire. Quand il dit au verset 22, « C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. » Il veut surtout dire, « Dieu m'a souvent empêché d'aller vers vous. Dieu m'a dit, il y a encore du travail ici. Mais maintenant, je ne suis plus retenu. Maintenant, je ne suis plus empêché. Il n'y a plus rien qui me retient dans ces contrées. » Il y a une grande leçon ici. Pas seulement pour des pasteurs, des prédicateurs, mais pour chacun d'entre nous. Quand est-ce qu'il est temps de partir de son assemblée? Et on a un indice. Dieu nous a placés là où nous sommes pour l'Évangile, pas pour notre santé. Dieu nous donne la santé pour l'Évangile, pour l'annonce de l'Évangile. Mais Paul pense à deux choses quand il écrit ces choses. L'œuvre que Dieu lui a donné de faire est arrivée à sa résolution, elle est terminée. Avant qu'elle ne soit terminée, Paul n'aurait jamais osé partir. Mais maintenant qu'il a ce sentiment qu'elle est terminée, il peut dire « plus rien ne me retient ici ». Paul aussi, deuxième chose, a le désir d'aller en Espagne pour annoncer l'Évangile. Et ce désir ne le quitte pas. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes prêts à quitter notre Église simplement pour un travail mieux rémunéré dans une autre région? Ou est-ce que nous désirons rester tant que nous n'avons pas la conviction que notre temps dans l'Église n'est pas arrivé à son terme, à une sorte de résolution que nous n'avons plus rien à faire, plus rien à apporter, et tant qu'il n'y a pas le désir profond de servir le Seigneur ailleurs? À quoi pensons-nous quand nous envisageons de partir? Est-ce que l'Évangile occupe la première place? Paul nous donne une merveilleuse illustration où l'Évangile de Jésus-Christ occupe la première place dans la vie d'un croyant. Et c'est un exemple pour nous. Paul est maintenant libre d'aller à Rome. Mais deuxième point, Paul espère aller en Espagne. Et en fait, c'est quelque chose de fascinant parce que c'est la raison principale derrière sa lettre aux Romains. Des experts ont écrit des tas de livres sur quel est le but de Romains, pourquoi Paul a-t-il écrit Romains. Mais la raison immédiate, c'est que Paul voulait aller en Espagne. Et pour aller en Espagne, propulsé par l'Église à Rome, tout comme il avait été propulsé dans son voyage missionnaire précédent par l'Église à Antioche, Paul a réalisé qu'il devait expliquer à ses chrétiens à Rome ce que c'est son Évangile. Il utilise cette expression mon évangile au chapitre 2 et on le verra aussi au chapitre 16. La lettre aux Romains, c'est l'évangile de Paul tel qu'il l'explique aux croyants qui sont à Rome, avec le désir qu'ils adoptent cet évangile avec lui, qu'ils adoptent Paul dans cet évangile et qu'ils l'envoient, qu'ils le propulsent dans une autre contrée en lui apportant une aide financière. En d'autres mots, et c'est très important pour nous, qu'est-ce que nous allons faire avec la lettre de Paul aux Romains? Et si la réponse n'est pas participer à l'évangélisation du monde, participer à répandre l'évangile dans le monde, on passe à côté de la raison pour laquelle Paul a écrit cette lettre aux Romains. On a dans cette lettre un exposé passionné de l'évangile de Jésus-Christ, qui n'a pas été écrit dans le but que nous restions assis en nous contentant d'étudier ce merveilleux exposé de l'apôtre Paul. Mais il a été écrit pour que ce merveilleux exposé de l'évangile nous attrape et nous pousse à adopter cet évangile et à adopter la mission apostolique de servir le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, de le faire connaître et de s'investir dans la mission. Pour le dire autrement, cette lettre aux Romains n'a pas seulement été écrite pour les Romains, elle a été écrite pour ceux vers qui Paul espérait aller. Je ne sais pas si Paul savait qu'il y avait des contrées au-delà de l'Espagne, mais pour Paul, l'Espagne était l'étape suivante. Et l'horizon de Paul peut s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça qu'il veut aller prêcher l'évangile en Espagne. C'est pour ça qu'il veut aller établir des églises en Espagne. Parce que l'évangile est l'évangile d'un Dieu missionnaire. Et l'apôtre Paul est un apôtre missionnaire. Et son espoir, quand il écrit cette lettre, c'est que l'église à Rome soit une église animée d'un esprit missionnaire. Et au verset 24, il écrit « J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous. » Le langage qu'il utilise ici se retrouve dans d'autres passages et cela traduit l'idée de recevoir une grande aide. Aujourd'hui, si un missionnaire prenait contact avec nous en nous demandant « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» En fait, il veut dire « à l'aide ». Il veut dire « priez pour moi ». Il veut dire « aidez-moi sur un plan matériel, sur le plan financier ». Et c'est exactement ce que Paul veut dire ici. Et on retrouve cette expression traduite ici par « être accompagné par vous ». On la retrouve dans d'autres passages, en Tite 3, verset 13, par exemple. Paul écrit « Aie soin de fournir au voyage de Zénas, le docteur de la loi et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » C'est la même expression. On pourrait traduire « accompagne Zénas ». Aie soin de fournir au voyage de Zénas, en sorte que rien ne leur manque. On la retrouve aussi dans la troisième lettre de Jean, verset 6. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. C'est la même expression. Tu feras bien d'accompagner. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aider. Cela veut dire participer à l'annonce de l'Évangile dans d'autres parties du monde. Faire en sorte de pourvoir aux besoins de l'effort missionnaire. S'impliquer à tous les niveaux. Sur un plan financier, sur un plan pratique, sur un plan matériel, mais aussi dans la prière. Et Paul appelle les Romains à participer à l'effort missionnaire. C'est ainsi qu'il espère aller en Espagne avec leur aide. Il veut qu'ils soient ses partenaires dans l'Évangile. Et c'est pour cela qu'il a écrit cette lettre. Je devrais enterrer ma tête dans le sable si l'exposé de cette lettre aux Romains ne produit pas en nous une passion pour la proclamation de l'évangile, une passion d'être toujours encore plus participant à faire connaître l'évangile dans le monde entier, au loin comme auprès. Paul veut aller en Espagne après avoir rendu visite aux croyants qui sont à Rome. Alors pourquoi part-il vers l'Est? Pourquoi va-t-il à Jérusalem? Et c'est le troisième point. Paul va à Jérusalem. À vol d'oiseau, le voyage pour Rome en passant par Jérusalem est au moins trois fois plus long que le voyage de Corinthe à Rome. Et c'est donc très bizarre. Et ce qui paraît encore plus bizarre, c'est que Paul va à Jérusalem avec de l'argent. Or, il vient de décrire aux croyants à Rome en espérant qu'ils s'impliquent dans l'œuvre missionnaire. Verset 25, Paul écrit « Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints. » Autre traduction, « apportant de l'aide aux saints qui sont à Jérusalem. » Et il précise au verset 26, « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. » C'est donc pas seulement bizarre qu'il aille dans la direction opposée, mais il va dans cette direction en faisant le travail d'un serviteur, d'un diacre. Il va apporter une aide financière. Et pourquoi lui? Est-ce qu'il ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre? Paul nous donne la réponse. C'est la seule collecte dont parle l'apôtre Paul. Dans ses lettres, quand il parle de la collecte, en 2 Corinthiens par exemple, il ne parle pas de la collecte que l'on peut faire pendant un culte. Il parle d'une collecte qui est organisée en dehors de ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'église locale. Il parle d'une collecte organisée dans les églises d'origine païenne, sous sa direction, pour qu'elle soit apportée aux saints à Jérusalem. Que cette collecte soit donnée par l'église d'origine païenne à l'église d'origine juive, comme un gage de la manière dont ces églises s'accueillaient mutuellement dans le Seigneur Jésus-Christ. Et bien que des passages comme 2 Corinthiens 8 et 9 ont souvent été appliqués à la collecte régulière dans l'église locale, ils n'ont en fait rien à voir avec cette collecte régulière. Ces passages traitent entièrement de cette super collecte, si on peut l'appeler ainsi, de cette collecte qui voulait répondre à la vision du monde qui affirmait que le monde était composé de trois races d'hommes, les païens, les juifs et les chrétiens. Mais ces églises voulaient montrer que juifs et païens, qui avaient embrassé Christ dans la foi, s'embrassaient mutuellement en Jésus-Christ. Il n'y avait plus de barrières. Et Paul voyait cela comme un grand symbole d'un des fardeaux de son ministère, de montrer que l'Évangile pouvait accomplir ce qu'aucune puissance sur terre ne peut faire. Quand Jésus-Christ, l'Évangile rapproche et unit ceux qui ont été étrangers les uns des autres dans leur chair et qui sont maintenant unis les uns avec les autres par l'Esprit de Jésus-Christ. Et Paul souhaitait que cette offrande des païens soit acceptable aux yeux des croyants juifs. Mais quand on regarde en arrière dans cette lettre, on peut voir que Paul, tout le long, comment Paul a posé le fondement de l'importance de tout ceci. Il a dit que l'Évangile est à la fois pour les Juifs et pour les Grecs, les non-Juifs. Parce que les deux, Juifs et Grecs, Juifs et païens, les deux sont perdus. Ils sont sous la condamnation de Dieu. Mais en Christ, ils sont unis. En Christ, ils sont réconciliés avec Dieu ensemble. Dans les chapitres 9, 10 et 11, Paul a parlé des desseins de Dieu dans l'histoire, comment Dieu a fait pour amener tous les hommes sous la condamnation divine pour leurs péchés, afin de montrer sa miséricorde, sa grâce à la fois aux Juifs et aux païens. Et dans les chapitres 14 et 15, où les croyants d'origine juive, ceux d'origine païenne, semblent avoir été en désaccord les uns avec les autres au sujet de l'observance de certains jours de l'Ancienne Alliance ou des lois alimentaires de l'administration de l'Ancien Testament. Paul veut voir à Rome, veut voir à Jérusalem, partout où il va. Il veut voir le ministère de la réconciliation de Jésus-Christ qui est démontré publiquement dans la manière dont ces Juifs et ces païens s'embrassent, s'accueillent les uns les autres, et en particulier la façon dont ces Juifs, dont ces chrétiens d'origine juive, pardon, dont ces chrétiens d'origine païenne apportent cette offrande en aide aux chrétiens d'origine juive, en leur disant « Le Seigneur Jésus nous a donné des richesses et nous les partageons avec vous, avec ceux qui sont pauvres. » Ailleurs, Paul va le dire cela pour motiver, par exemple, les Corinthiens, en 2 Corinthiens 8, verset 3. « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part avec à l'assistance destinée aux saints. » Et Paul est passionné de voir l'Évangile à l'œuvre dans chaque domaine de la vie. Et Paul ne désire rien de plus que de partager des instants de communion avec ses chrétiens à Rome et qu'ensuite il l'envoie en mission en Espagne. Mais il ne peut pas faire cela, il ne veut pas faire cela sans d'abord montrer à ses frères et sœurs juifs à Jérusalem le signe que l'Église de Jésus-Christ dans le monde païen tient vraiment à aider l'Église d'origine juive à Jérusalem et veut développer la communion fraternelle. Au verset 26, et le mot qui est traduit par « contribution », car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution, est en fait le mot que l'on traduit par « communion ». Et le message, c'est que nous sommes un en Christ. Nous sommes un en Christ. Paul veut donc aller à Jérusalem parce qu'il veut connaître cette communion des saints. Il veut voir cette communion des croyants exprimée de façon concrète. Paul dit avec assurance qu'il passera à Rome sur sa route vers l'Espagne et qu'il le fera avec une pleine bénédiction de Christ. Et ensuite, il lance un appel. Pourquoi ? Paul les supplie de prier pour lui, d'intercéder en sa faveur. Et c'est quelque chose à noter, parce que quand on lit le Nouveau Testament, la personne qui sait le mieux prier à part le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul. Et la chose intéressante ici, c'est que ceux qui savent vraiment prier sont ceux qui, en même temps, vont demander à d'autres de prier pour eux, afin que, quel que soit le ministère dans lequel ils sont engagés, l'Évangile soit annoncé avec puissance, qu'ils reçoivent la force et la protection et soient utiles dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ et quand ils soient utiles à son service. William Carey, missionnaire en Inde à la fin du 18e, début 19e siècle, écrit à son ami pasteur Andrew Fuller. Il dit ceci, « Je vais aller dans la fosse, mais toi, tu dois tenir les cordes. » Et c'est le même besoin encore aujourd'hui. Il y a bien sûr l'utilisation de nos ressources, mais il y a aussi la question de la prière. Est-ce que nous prions pour la proclamation de l'Évangile? Est-ce que nous tenons les cordes pour quelqu'un? C'est un défi qui est lancé dans ce passage. Est-ce que nous combattons avec ceux qui annoncent l'Évangile, comme Paul demande à ses croyants à Rome de combattre avec lui? Est-ce que nous tenons les cordes pour ceux qui sont engagés dans la prédication fidèle de la parole de Dieu? Est-ce que nous Demandons à Dieu d'accompagner la prédication de sa parole avec la puissance de son esprit pour toucher, pour transformer des cœurs. Est-ce que nous sommes impliqués? Paul nous dit qu'il a accompli son ministère depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie, qu'il a planté des églises qui, en retour, plantent d'autres églises. Maintenant, il envisage d'aller en Espagne, mais il demande à ses croyants à Rome que, lorsqu'il ira à Jérusalem, il prie pour lui, afin que son ministère soit agréé des saints à Jérusalem, qu'il soit libre ensuite de venir les voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Et beaucoup d'entre nous savent quelle a été la réponse à ces prières. Paul est bien allé à Rome depuis Jérusalem, mais il est allé à Rome en tant que prisonnier, sous surveillance. Alors pourquoi le titre de ce message, d'empêcher à sans empêchement? Paul a souvent été empêché d'aller à Rome, il l'a dit, il avait été retenu, maintenant il n'est plus. Et pourquoi sans empêchement? En fait, ces mots, ce sont les deux derniers mots du livre des Actes des Apôtres. Sans empêchement ou sans obstacle dans notre version. Et ces mots décrivent comment l'apôtre Paul a prêché l'évangile quand il était prisonnier à Rome, libre, sans empêchement. Paul n'a cessé de dire à ses croyants à Rome, dans les derniers chapitres de ce livre, il n'y a aucun endroit où l'évangile ne peut pas agir. Il n'y a rien qui peut empêcher l'action de l'évangile. Quelles que soient vos circonstances, rien ne peut empêcher l'évangile d'agir. Et Paul est sur le point de le démontrer dans sa propre vie. C'est un passage qui est très instructif pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur Jésus-Christ. Paul a une vision claire de ce à quoi il est appelé. La question pour nous, c'est est-ce que nous avons une vision claire de ce à quoi nous sommes appelés? Si nous savons à quoi nous sommes appelés en Christ, cela va clarifier beaucoup de choses dans nos vies. Est-ce que nous sommes prêts à ce genre de sacrifice? Est-ce que nous avons un fardeau pour la mission, pour une œuvre missionnaire en particulier? Est-ce que nous avons demandé un jour, comme l'apôtre Paul a demandé au Seigneur, « Quelle est la prochaine étape, Seigneur? Où veux-tu que j'aille avec l'Évangile? » Qu'est-ce qu'on va faire quand on va arriver à la fin de cette lettre? J'espère que notre réponse sera de s'impliquer davantage dans l'œuvre missionnaire, au loin comme auprès, sur un plan matériel, financier, mais aussi à combattre dans la prière, pour l'annonce de l'Évangile, pour faire connaître le nom du Seigneur Jésus-Christ dans des milliers d'endroits où il n'est pas encore connu. Vous allez me dire que ça fait beaucoup de chapitres pour amener des personnes à s'engager dans l'œuvre missionnaire. Mais c'est parce qu'il faut un merveilleux évangile pour amener les gens à s'impliquer dans l'œuvre missionnaire. Et c'est ce que Paul a fait, c'est ce que Paul a expliqué dans sa lettre. Que Dieu nous amène donc en comprenant, en saisissant toujours plus la beauté, la merveille de cet évangile, qu'il nous implique à être impliqués dans son service, toujours plus. Et que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.